Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans Bouffon.
Ça va bien, Bouffon ?
T'as un truc, Bouffon, à manger par terre.
Littéralement l'impression de bouffer un nuage.
Qu'est-ce qu'on va rechercher dans le plaisir ?
La bouffe.
Tu bouffes ! Tu bouffes !
J'ai un rapport bizarre au pot-au-feu. Alors c'est un début d'intro un peu Brigitte Lahaye featuring Bouffon. J'ai un rapport bizarre au pot-au-feu. Non, en fait, je sais pas comment. En gros, je sais ce que c'est, évidemment. Je sais que ça existe et je sais que c'est vraiment important dans la cuisine française. Je sais que j'en ai déjà mangé, j'ai le goût en tête. Mais je suis incapable de dire si j'en ai mangé une fois de temps en temps en famille ou si c'était un truc qu'on faisait régulièrement. Et je pense que la raison de ce flou, aussi trouble qu'un bouillon bien gras, c'est que le pot-au-feu est l'exemple de patrimoine culinaire commun parfait. Un truc qu'on connaît tous sans trop savoir ni comment, ni pourquoi. Et on va voir qu'il est une part importante de notre héritage culinaire, ce pot-au-feu, aussi simple soit-il, parce qu'en fait, c'est la réunion de plein de trucs qui font notre cuisine. J'en ai parlé notamment avec Yako, un ami à moi que vous entendrez en deuxième partie d'épisode. Fraîchement reconverti à la cuisine, il officie avec sa femme au Bar des Amis, un petit bar d'un très beau village du Luberon, où il prépare plats traditionnels français, blanquettes, gardianes et évidemment du pot-au-feu.
C'est très, je pense, presque basique comme repas, parce que ça a été une façon de cuire la viande depuis toujours, je pense. Et dans toutes les cultures, on retrouve ce principe de viande bouillie pendant des heures. Parce que soit c'est de la viande pas chère qui a du coup besoin de cuire longtemps pour être plus tendre. Soit c'est pour s'assurer qu'elle soit comestible. Qu'il n'y ait pas de parasites ou de microbes de la cure très longtemps.
Mais pour la première partie, j'ai échangé avec Georges Carantino, historien et auteur. Il a écrit avec Julia Chergo, qu'on avait reçu pour le sucre. Ils ont donc écrit ensemble « Pot-au-feu, convivial et familial, histoire d'un mythe ». Dans Bouffon, on a reçu tout type d'invités. Des amateurs éclairés qui nous parlaient les yeux embués de leur passion pour un plat. Des géographes qui nous racontaient les déplacements d'un autre plat. Mais on n'a jamais eu de vrai cours d'histoire et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. 30 minutes d'histoire du pot-au-feu, comme une sorte de cours mais qui donnerait hyper faim. C'est passionnant, tendez bien l'oreille, parce que c'est l'histoire d'un plat mais aussi de la société, de ses évolutions, des évolutions de l'alimentation et de tout un tas d'autres trucs qui vont être traversés pendant cette première partie.
Alors le pot-au-feu, c'est une histoire technique, c'est une histoire liée à l'histoire de la diététique, c'est-à-dire à la conception qu'on a de l'alimentation. Hein. C'est une histoire sociale, puisqu'il y a un pot-au-feu des paysans, mais il y a lentement qui se met en place un pot-au-feu des élites. Et puis, c'est une histoire des goûts, c'est une histoire de la technique des cuissons dans une dimension anthropologique. Et là, on peut faire référence aux travaux de Lévi-Strauss sur le rôti, le bouilli, le cru, le cuit, le triangle de Lévi-Strauss sur le rôti, le bouilli et le pourri, pour comprendre quel est anthropologiquement et symboliquement le statut de cette viande bouillie, puisque cuire au pot, c'est cuire dans l'eau profonde.
Oui.
Hein
c'est parce que le pot-au-feu s'appelle pot-au-feu parce que c'est littéralement mettre un pot sur le feu.
Oui, alors c'est une chose beaucoup observée dans l'histoire de l'alimentation, c'est les glissements de sens. Hein. Le contenu prend le nom du contenant. Vous voyez ce que je veux dire?
Hein,
on met le pot sur le feu pour cuire dans l'eau profonde des denrées. Hein, c'est le glissement métonymique qui fait que, après, on va nommer le contenu du pot à partir du nom du contenant. Alors, il y a un témoignage de Goethe qui est très intéressant. C'est dans un ouvrage sur sa campagne en France, puisque il suit les troupes du duc de Weimar et il fait la campagne de France et deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et quand il retourne en Allemagne, il est reçu dans la ferme de paysans aisés en Lorraine, puisque la tradition, évidemment, dans ces périodes de guerre, c'est que les troupes de passage sont logées chez l'habitant. Aussi bien le seul simple soldat que l'officier, etc. Donc, et ce paysan aisé, il consomme du bœuf. Il est aisé pour consommer du bœuf. Sinon, on ne consomme pas de bœuf, on consomme du porc. Hein. Et donc, Goethe, qui a entendu parler de ce fameux pot-au-feu français, il décrit un pot-au-feu qui ressemble tout à fait au nôtre. C'est-à-dire que dans la grande marmite, il y a des morceaux de bœuf, il y a des poireaux, des navets, des carottes, pas de pommes de terre, attention, hein.
Pas
d'anachronisme. Hein. Il y a du chou, alors que dans notre pot-au-feu, il n'y a plus de chou. Et c'est là qu'il faut penser aux variantes régionales très importantes de ce contenu du pot. Hein. Et donc, on lui sert, on lui met dans une assiette une tranche de pain qu'on arrose du bouillon et on lui met dessus les légumes et la viande.
Ce qui fait un mélange de soupe et de pot-au-feu.
Ce qui fait, comme nous, qu'on mange à la fois le bouillon, la viande et les légumes ensemble. Hein? Même si on a tendance, par exemple, après de servir le bouillon à part avant les légumes et la viande. Hein? Mais c'est la même idée, ça. Alors que on va voir que dans les pot-au-feu aristocratiques de la fin du XVIIIe, etc., on ne consomme pas le bœuf.
Ah oui, ils l'utilisent juste pour faire le bouillon.
Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Dans les classes des élites sociales au XVIIIe siècle, on ne consomme pas le bœuf. On commencera à le consommer sous l'influence des Anglais, l'anglomanie qui commence à la fin du XVIIIe siècle va se poursuivre une partie du XIXe siècle. Hein. Les Anglais qui nous ont appris à manger le bœuf rôti, le beefsteak, etc., toutes ces choses-là. Hein.
Avant,
le roast beef, le beefsteak, c'est les Anglais qui nous ont appris
Pourquoi on ne le mangeait pas avant ? Parce que,
Là, on est forcément dans une dimension de réflexion diététique. Le bœuf, depuis l'Antiquité, la médecine hippocratique, la médecine antique, qui a encore une influence jusqu'au XVIIIe, ça commence vraiment à changer au XVIIe, considère le bœuf comme une viande grossière, difficile à digérer, froide, et qui n'est pas convenable pour les corps plus fragiles des élites. C'est bon pour le peuple, parce que le peuple est chaud, par son corps, il travaille beaucoup de son corps, de ses muscles, il a un corps chaud qui peut brûler bien les aliments plus froids et plus frustes, alors que ceux qui ne travaillent pas de leur corps, ils ont un corps moins chaud, et donc il leur faut des viandes plus faciles à digérer. C'est le succès du veau, par exemple, du veau blanc en particulier. Hein. Alors évidemment, au XVIIIe siècle, ça ne va plus être la conception antique de la digestion qui est une conception liée à la cuisson des aliments. C'est-à-dire, si j'ai un corps chaud, je cuis bien les aliments qui sont très froids, je peux les digérer. Si je n'ai pas le corps très chaud, je ne peux pas les digérer. Mais la conception, ça va être une conception chimique. Hein. Progrès de la chimie au XVIIIe siècle, la conscience chimique, etc. Les sécrétions du tractus digestif permettent la digestion par réaction chimique. Dans ce cas-là, tout le monde est logé à la même enseigne, ce qui permet aux élites et aux médecins des élites, puisque c'est aussi eux qui donnent les conseils, de concevoir qu'on puisse, quand on a un corps plus fragile, entre guillemets, parce que c'est bien de se concevoir fragile quand on fait partie des élites, de digérer des viandes plus réputées dans le temps plus froides. Vous voyez ce que je veux dire ? Hein? Mais de toute façon, la viande sert à faire du bouillon, ce qui est et les légumes aussi. Hein? C'est-à-dire que dans les cuisines aristocratiques, on met bien au pot du bœuf, des carottes, des poireaux, des navets, du sel, n'oublions pas le sel, et de l'eau. Et on va en tirer un bouillon que l'on voit soigneusement filtrer, clarifier. C'est le bouillon qu'on servira, ce qu'on va appeler plus tard le consommé. Hein? Alors que les légumes et les viandes sont peut-être donnés aux domestiques ou aux animaux, hein? Parce que ce n'est pas ça qui intéresse l'aristocratie. L'aristocratie, traditionnellement, elle mange des volailles, par exemple, ou du veau. C'est intéressant de voir comment, dans la cuisine des élites qui va se mettre en place dans la première moitié du XIXe siècle, avec la création des restaurants, on va pouvoir voir sur les cartes de restaurants, on en a depuis le début, hein, depuis le début du XIXe siècle, on a des cartes de restaurants, on voit bien que les restaurants ne vont pas servir le pot-au-feu comme le pot-au-feu décrit par Goethe, on sert tout à la fois, mais ils vont servir des bouillons, des consommés, et séparément du bouilli qui va être recuisiné, hein, le bœuf mode ou des choses comme ça, qui va être une autre sorte de plat. Avec tout un jeu de sauce, sauce au pauvre homme, sauce à la tomate, etc. etc. Et donc les restaurants qui vont faire des cuissons au pot vont tirer du pot et du bouillon qui vont servir à part et du bouilli de bœuf qu'ils vont recuisiner pour en faire des plats. Et alors, on a bouilli de bœuf, et puis on a sur les cartes une vingtaine de sauces différentes. Hein. On peut même servir à la vinaigrette, etc. Donc, vous voyez, c'est entre le fait de tout servir en même temps et de se servir de cette cuisson au pot pour produire à la fois des bouillons et du bouilli, sachant que les bouillons, et ça, tous les gastronomes le disent, Grimaud de la Reynière, etc., disent qu'il n'y a pas de cuisine, au sens aristocratique du terme, sans bouillon, qui est la base de toutes les sauces. Hein. Maintenant, on ne fait plus ça, mais la première chose qu'on faisait dans une cuisine d'un hôtel aristocratique ou dans un restaurant du XIXe siècle, c'était d'avoir ses fonds, c'est-à-dire ses bouillons, le bouillon de bœuf, le bouillon de veau, le fumet de poisson, etc. Parce que c'est avec ça qu'on fait différentes sauces. Oui. Hein. Et tout l'art de la cuisine étant aussi un art des sauces. Alors après, on pourrait parler des sauces indéfiniment. Mais donc, c'est la qualité du bouillon de bœuf va être très importante. Donc, on produit du bouillon et on produit du bouilli en même temps. Et on fait des usages différents. Mais alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à un moment donné, au milieu du XIXe siècle, il y a certains restaurants fréquentés par la bourgeoisie parisienne, etc., qui vont réinventer un pot-au-feu pour les élites calquées sur le pot-au-feu populaire. C'est-à-dire qu'ils vont en même temps servir des légumes, de la viande et du bouillon. Et ils vont non pas mettre la tranche de pain paysanne au fond de l'assiette, mais on va prendre des flûtes à potage qu'on va éventuellement frotter à l'ail, griller au four, qu'on va pouvoir aussi servir tartiner de moelle, de l'os à moelle. Oui. Hein, et on va avoir là un pot-au-feu des élites qui va être servi sur les meilleures étapes parisiennes. Hein, on a appelé ça la petite marmite, la grande marmite, etc. La notion de flûte à potage, une notion très importante. Puis après, tout ça, ça va un peu disparaître parce que la cuisine d'Escoffier et tout, si elle se sert évidemment beaucoup de bouillon, puisqu'il y a une cuisine de sauce, hein, cette idée du pot-au-feu, comme le décrit Goethe pour les élites, va disparaître. Et c'est très intéressant de voir comment il peut être découvert sous différentes formes, puisque j'ai dit qu'il y a de nombreuses variantes de pots au feu, c'est-à-dire de mets tirés du pot mis au feu dans les régions. Cette notion de pot au feu, au sens premier du terme, va réapparaître dans la définition des cuisines régionales dans l'entre-deux-guerres principalement, Kurnonski, etc. Hein. Et puis après, ce pot au feu paysan, entre guillemets, parce que ça, c'est la notion de paysan, c'est, va être réinvesti dans les années 70 par le retour à soi-disant l'authenticité de la cuisine paysanne, la redécouverte de la campagne, etc., sans que les acteurs de cette renaissance n'aient conscience qu'ils sont aussi dans des créations culturelles, hein, et que si on se penche sur la cuisine paysanne ancienne, c'est pas ça, hein. C'est des reconstructions toujours, hein. Et c'est des reconstructions par... on voit bien les années 70 que c'est par une élite plutôt intellectuelle, progressiste, écologique, retour à la terre, qui est un monde idéologique particulier, qui n'a plus rien à voir avec le monde de la grande bourgeoisie du 19e siècle, ni des masses ouvrières ou populaires parisiennes, qui définit aussi, hein, qui a un imaginaire du plat. Toujours se questionner sur les imaginaires des plats.
Oui.
Hein, c'est ça important. Alors, il y a un imaginaire du pot-au-feu, évidemment. Hein, et puis, on voit bien toutes les expressions.
Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'expressions qui découlent de pot-au-feu.
Oui, oui, tout à fait. Il y a une expression « vivre à peau et à bouille ». Ça veut dire qu'on vit ensemble et on fait la cuisine à la maison, on a le même pot et on le fait bouillir ensemble, par exemple, voilà. Ou alors, quelque part, il y a un auteur du même siècle qui dit « il est beaucoup trop pot-au-feu pour faire de grandes choses ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans ses pantoufles et dans son pot-au-feu. Vous voyez. Et en fait, le pot-au-feu des élites réinvestis par les restaurateurs du 19e siècle, il va à l'encontre de cette conception petite bourgeoise du pot-au-feu confortable, de la cuisine de maison, etc. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui. Hein ?
Il y a le même débat pour la blanquette de veau, c'est très intéressant, qui est regardée comme le plat éminemment, les petits bourgeois qui font leur cuisine chez eux, etc. Tout ce regard différent sur un même plat.
Oui.
Et le pot-au-feu n'échappe pas à ces jeux de regard.
Hein ? Et comment on arrive à acter la naissance du pot-au-feu alors que j'ai l'impression que faire bouillir dans un bouillon, c'est quelque chose qui a quasiment, depuis que l'homme fait de la cuisine, il met des choses
voilà,
au feu à bouillir.
Voilà, vous avez tout compris. C'est-à-dire que quand on a commencé à mettre un pot plein d'eau sur le feu, on a commencé à faire du pot-au-feu. Hein alors, on appelait ça au 16e, 17e, 18e, même à la fin du ménage, dans le livre de cuisine, des potages. C'est-à-dire, ce que l'on sort du pot, c'est un potage. Hein ? On a parlé du glissement métonymique entre le contenu et le contenant de pot sur le feu à pot au feu, mais on a aussi l'expression potage. Ce que je tire du pot, c'est un potage. Hein ? Et alors, on voit bien des recettes de cuisine au XVIIe ou XVIIIe siècle, où on a mis dans le pot de l'eau, du sel, ça c'est la base, une garniture aromatique, hein, on commence à faire ça, des oignons, des choses comme ça, ou de l'ail, ou comme ça, et puis on met une volaille, par exemple. Alors la volaille cuit au pot, alors ça va être le lien, voilà, l'imaginaire, la poule au pot, par exemple, voilà. Mais très aristocratique ce que je vous décris. Hein. C'est-à-dire, on met une volaille, elle cuit dans le bouillon. Après, on va prendre un plat, ça c'est de la cuisine des élites. Mmh. On prend un plat, on va tapisser le plat de tranches de pain, c'est-à-dire de soupe au sens premier du terme. On va poser la volaille dessus. Avec le bouillon, on va faire une sauce, c'est-à-dire qu'on va, lier ce bouillon, on va le filtrer d'abord, parce que les filtrations sont très importantes. Filtration et clarification pour les bouillons, c'est très important. On va le lier soit avec du pain gratusé, c'est-à-dire du pain qui a été grillé plus ou moins et dont on fait une petite chapelure, ça c'est très médiéval, ou avec du beurre, quand on commence à utiliser le beurre fin 17e siècle, ou avec des jaunes d'œufs, ou avec des farines pour la lier, sortir de l'aqueusité du bouillon, en avoir ses saveurs en sortant de l'aqueusité du bouillon, hein, et on va napper la volaille de cette sauce qui va couvrir la volaille, si on a bien fait les choses, c'est nappage, c'est un degré de cuisson, donc ça couvre bien sans trop couler, ça couvre la soupe, hein, on met au fond un peu de bouillon, et on sert ça, et dans les menus, ça va s'appeler potage. Puisque c'est un contenu du pot.
Mmh.
Hein? Mais alors, pour revenir aux origines, alors là, c'est presque une réflexion et anthropologique et archéologique, sachant que il y a des liens entre les deux et que souvent les archéologues éclairent leurs réflexions par les observations d'anthropologues sur des peuples dits primitifs, entre guillemets, méfions-nous de tous ces termes, hein, qui ont encore des pratiques très anciennes, qui peuvent peut-être, en étant très prudents, puisque tout ça c'est très prudent, éclairer ce qu'on observe dans l'archéologie. Hein. Et on revient à la réflexion de Claus Lévi-Strauss sur le rôti, le bouilli, le pourri. Quand on a pu avoir, qu'on a maîtrisé le feu évidemment, ça.
Oui.
Qu'on a pu avoir un récipient dans lequel on a pu mettre de l'eau, qu'on a pu faire chauffer cette eau pour qu'elle boue, pour y cuire quelque chose par immersion, on a commencé à faire des pot-au-feu. Ça n'implique pas forcément l'invention de la poterie.
Ah oui.
Ça veut dire qu'on a pu faire bouillir des racines, des choses comme ça, dans des récipients en pierre creusés, dans lesquels on met de l'eau. Et sachant que si on fait un feu et qu'on met des galets dedans qui deviennent extrêmement chauds, avec des sortes de pinces en bois, on peut les mettre dans l'eau après, ça fait bouillir l'eau. Tout le problème est de gérer le chauffage de ces galets par un aller-retour par rapport au feu de flamme vive pour continuer l'ébullition pendant longtemps.
On en parlait au tout début des variantes, enfin le pot-au-feu dans le sens large, on disait bouillabaisse, on disait la garbure, on disait le kikafarce
oui,
breton.
Oui, tout à fait. Oui. Ou la cotriade, puisqu'on peut faire des pot-au-feu de poisson. Hein.
Mais si on va voir un Marseillais en lui disant « ta bouillabaisse, c'est un pot-au-feu », il va tiquer un peu, je pense. Alors comment ça se commence?
Mais tout le monde va tiquer. Puisque le sens restreint de pot-au-feu qui s'est établi dans les livres de cuisine, qui n'apparaît seulement, ce sens restreint, dans les livres de cuisine qu'à la fin du 19e siècle.
Ah oui, donc quand même très tard. Quoi.
Hein, très tard. S'impose maintenant et domine. Ça veut dire que plus personne ne comprend ce que peut vouloir dire un pot-au-feu au sens large.
Mmh.
Mais ça, c'est un phénomène linguistique, etc., qui est courant. Hein, donc évidemment, personne ne comprend. De toute façon, les gens, ils ne pensent pas en termes de technique culinaire quand ils nomment les plats. Hein. L'onomastique des plats, elle est très complexe et la part de la technique de l'élaboration, c'est une toute petite part dans la création du nom des plats. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Et d'ailleurs, si vous demandiez à quelqu'un qu'est-ce que ça veut dire pot-au-feu, il vous dira « ça veut dire de la viande et des légumes ». Il ne vous dira pas « ça veut dire que j'ai mis ça au pot sur le feu ». Ça ne lui viendra pas à l'esprit. D'abord parce qu'on ne sait plus du tout qu'on cuisait au pot. Hein, alors qu'on pendant très longtemps, le meilleur des récipients pour cuire, c'était le pot de terre. Hein. Et on voit d'ailleurs dans les photos anciennes du 19e siècle d'intérieur parisien, je pense aux photos d'Adjet, par exemple, qui photographie des cuisines populaires à Paris, on voit sur la cuisinière un pot en terre. Hein. Donc ça, c'est... Ça veut bien dire que le pot, maintenant, les pots, c'est quoi? C'est un pot de chambre, c'est un pot de fleurs, mais qui dirait je cuisine dans un pot? Je cuisine dans une marmite, je cuisine dans cocotte minute, vous voyez. Donc c'est tous ces termes-là qu'on a perdus. On crée de nouvelles cultures, de nouveaux mots, etc., et on perd les anciennes. Alors peut-être que le travail de l'historien, c'est de montrer qu'il y avait des choses avant nous, parce qu'on est toujours à penser qu'on a tout inventé et qu'avant il n'y avait rien et que de toute façon nos ancêtres étaient nuls. Ça, c'est vrai. On a peut-être que pour exister vraiment, les sociétés ont besoin de se dire qu'ils innovent et qu'ils sont les meilleurs. Sinon, ils désespéreraient de se dire qu'ils sont des pauvres héritiers de choses bien plus riches qu'ils ne croient. Ouais. Donc c'est un peu ça le mécanisme. Hein. Donc c'est pas étonnant que les gens ne comprennent pas.
Merci à Georges Carantino. On met toutes les références pour retrouver ses écrits, dont son livre sur le pot-au-feu, dans la barre d'infos. Et maintenant, pour finir sur une note plus familière, j'ai parlé avec mon pote Yako de son rapport au pot-au-feu. Fils de restaurateur, il y a peu tout plaqué pour apprendre la cuisine en CAP avant de reprendre un petit bar de village, un endroit que j'adore où il fait une cuisine aussi traditionnelle que réconfortante. Et un week-end de novembre, je suis passé le voir. On a parlé autour d'un micro, de pot-au-feu et de reconversion.
Le pot-au-feu, c'est le plat réconfortant par excellence. Et pour moi, c'est un des premiers plats que j'ai cuisiné.
Que t'as cuisiné quand t'avais pris, quand t'étais petit?
Quand j'étais petit et quand je suis arrivé à Paris. C'est le premier plat, je me souviens, avoir fait dans ma chambre d'étudiant.
Ah, t'as fait un pot-au-feu étudiant?
Ouais, ouais.
C'était pas, t'avais de quoi faire?
Ouais, bah, j'avais une plaque électrique.
Oui, parce qu'en fait, il y a pas besoin de grand-chose.
Pas besoin de grand-chose.
Tu fais juste tout dans un même contenant.
C'est ça, donc, ouais.
Et pourquoi tu te rappelles de ce moment-là?
Ah, je m'en rappelle de fou. Je pense que c'est la première fois que je faisais pas genre des pâtes ou du riz avec les trucs avec du jambon dedans et du fromage.
Un cordon bleu,
voilà.
C'est
vraiment le premier truc où vraiment genre je suis allé acheter de la viande, des légumes, vraiment pour cuisiner quand j'avais 18 ans.
Ouais, tu t'es dit, quand t'étais étudiant, c'était en Hollande ou à Paris?
Non, c'était à Paris.
Et tu t'es dit, c'était quoi est-ce que tu te rappelles du sentiment de, ah là là, il faut que je me fasse un truc, il faut
ouais,
que
je
ça me manque?
Ouais, je pense que c'était le début de l'hiver.
Ok.
Début de l'hiver et ouais, envie de kiffer un peu, quoi. Ouais.
De c'est
me rappeler la maison.
Des dimanches. Ah, ça, c'est te rappeler la maison.
Ouais.
Parce qu'en fait, t'es pas de Paris, t'habites même plus à Paris d'ailleurs.
Non.
En fait, pour les gens qui nous écoutent, on se connaît depuis longtemps.
Oui.
Et quand je t'ai connu d'ailleurs, t'étais pas chef. Aujourd'hui, t'es chef au bar des amis.
Enfin, exactement.
Chef, propriétaire, enfin, ouais. Propriétaire du tout.
Chef gérant. Et
gérant du bar des amis. Mais c'était pas du tout ce que tu faisais au début.
Non.
Tu fais partie de ces gens qui ont fait une reconversion.
Exactement.
Qu'est-ce que
CAP, j'ai fait un CAP il y a 2 ans.
CAP il y a 2 ans.
Cuisine.
CAP cuisine. Aujourd'hui, t'as récupéré ce bar de village, d'un petit village.
Exactement,
du Luberon.
Dans le Luberon.
Parce que ouais, t'as pas fait la reconversion et t'as pas ouvert un food truck aujourd'hui.
Non.
Ni un coffee shop dans le 11e arrondissement de Paris. Mais t'as repris. Est-ce que tu peux raconter l'histoire de ce...
Bah en fait, j'ai repris le bar, donc ça s'appelle le bar des amis à Villars, dans le Luberon, à côté d'Apt. Et en fait, c'est un bar qui appartient à la mairie et c'est le dernier bar du village. C'est un tout petit village de 700 habitants. Et du coup, tous les 3-5 ans, ils changent de gérant. Et donc là, nous, on l'a repris. Ça va faire 1 an avec ma femme Emeline.
Et oui, donc vous êtes sur un bail de 3 ans et puis après 3 ans, ils remettent le truc.
Advienne que pourra.
Et qu'est-ce que tu fais? On va reparler de pot-au-feu très vite, mais qu'est-ce que tu fais comme cuisine?
Je fais une cuisine assez simple, accessible, familiale et des pizzas. Donc une carte d'une quinzaine de pizzas, des pâtes, salade et puis un plat de la semaine. Voilà.
Lasagne,
oui, pot-au-feu, bourguignon, des choses comme ça.
Parce qu'il y a une vraie, on peut pas forcément y penser, mais il y a une vraie contrainte, alors qu'il n'est pas désagréable, mais il y a une vraie contrainte à faire de la cuisine pour... en fait, tout restaurant a ses contraintes, en fait.
Voilà.
Et ce bar de village, tu peux pas dire, tiens, on va faire des ramen.
Non, non, ici...
il faut quand même que voilà. Tu restes dans un cadre...
très accessible niveau prix et niveau cuisine.
Donc t'as déjà fait des pot-au-feu?
Ouais.
Tu le fais comment, ton pot-au-feu?
C'est assez simple, hein. C'est... de la viande de bœuf, grasse et maigre.
Un mélange de deux viandes.
Voilà,
deux types de viande.
Deux ou trois même.
Chacune va apporter un truc différent.
Apporte son... Ouais. Et des légumes. Et voilà.
Et c'est tout. Et après,
c'est tout.
Après quoi? Après un bouillon, j'imagine.
Après de l'eau. Non,
de
le bouillon se fait en fait
avec
les légumes et la viande. Et un bouquet garni du thym, du laurier. Et puis voilà.
Combien de temps?
Au moins 3 heures, quand même, 2-3 heures.
Et les gens, ils sont contents quand tu fais un pot-au-feu?
Ouais, ça marche toujours. Parce que je crois que les gens en ont un peu marre, peut-être, de le faire chez eux. Alors, ils sont contents quand. Parce que comme ça demande. C'est pas compliqué du tout, mais ça prend du temps.
Ouais. Enfin, ça prend vraiment du temps, non?
Ben, ça prend pas du temps à faire, mais ça prend du temps à cuire. Ouais. Donc, faut le prévoir quand même un peu en avance. Donc, les gens, ils aiment bien arriver au resto et que ce soit prêt direct, je pense.
C'est sympa. Mais
c'est vrai que le principe du restaurant. Hein,
ouais, c'est exactement. C'est littéralement le principe du restaurant de, bah écoute, de restaurer les gens. Mais c'est vrai que d'ailleurs, on dit que tu as fait une reconversion, mais c'est pas un truc. T'es pas forcément dans un profil de je voulais faire quelque chose de mes mains ou quoi. C'est qu'en fait, il y a une espèce de. Un truc assez marrant, je pense que tu peux nous raconter, qui s'est passé avec tes parents, parce que tes parents font de la cuisine aussi. Et à la fois eux et toi, vous vous êtes dit, vous adorez la cuisine. Eux, ils ont vu que t'en fasses, toi, t'as envie d'en faire, mais il y a eu un truc qui.
En fait, quand j'étais petit, mes parents ont toujours eu un resto et moi, je pensais qu'ils avaient en fait pas du tout envie que je fasse de la restauration parce que quand j'en parlais avec eux, c'était toujours « Non, mais c'est un métier trop dur, tu devrais faire autre chose, tu devrais essayer et tout. » Et moi, du coup, je pensais qu'ils voulaient vraiment pas que je fasse ça. Donc du coup, je suis parti dans un autre truc que j'aimais quand même beaucoup, la musique.
Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de, parce que je travaillais pour la publicité, j'en avais un peu marre de ce milieu-là et de vivre à Paris. Et du coup, j'en ai reparlé avec mes parents.
Et t'as découvert que eux se disaient.
En fait, ils se disaient, ah, mais putain, ce serait bien s'ils bossaient avec
nous. Mais ils doivent pas avoir envie.
Ouais, ils doivent pas vouloir. Donc, en fait, c'était un gros quiproquo.
Ouais.
Qui m'a coûté 10 ans de, 10 ans de ma vie, putain, à Paris.
Et vous l'avez d'ailleurs très bien réglé, entre guillemets, parce qu'en fait, toi, t'as fait ton CAP.
Voilà, j'ai fait mon CAP. On a bossé avec ma femme un an avec eux. Dans leur restaurant, et puis c'est là que l'opportunité du bar des amis est apparue.
Ouais. Et vous avez hésité ou pas avant de le prendre ?
Pas du tout.
C'était quand même
c'était
le meilleur
directement, compromis. Ouais. Ouais, ouais, c'était vraiment ce qu'on avait envie de faire, et voilà, concours de circonstances.
Tu te rappelles du premier pot-au-feu que tu as mangé ?
Non, je pense pas.
Mais tu te rappelles des premiers, on va dire ?
Ouais.
C'était
ouais,
quoi de, c'était quand ?
C'était vraiment tout petit, le soir en rentrant de l'école, plutôt l'hiver. Tu vois, vraiment le plat de la semaine.
Plat du dimanche.
Non, je pense que c'était. Parce que ça peut se manger vraiment sur 2-3 jours. Comme, en général, il y a beaucoup plus de bouillon que de viande et de légumes. Le bouillon, après, le lendemain, tu manges que les légumes parce que tu as mangé toute la viande. Et le troisième jour, tu manges le bouillon avec les vermicelles. Quoi.
Ouais, comment tu. Ouais, ça t'accommoderait le bouillon avec des vermicelles.
Ouais, vermicelles ou des petits. Des petites.
Tu peux faire un minestrone.
Ouais, ouais, ouais.
Faire tout
ouais,
ce que tu fais avec ton bouillon. Tu peux ouais, même le boire.
Comme ça.
Tu peux le boire comme ça. Et c'est marrant parce que je me disais en préparant cette émission que les gens aimaient bien le pot-au-feu parce que j'ai l'impression que c'est un résumé assez. Alors pas complet, mais assez bon de tout ce qui fait la cuisine française et la cuisine de la famille, de la maison. C'est un bouillon, t'as des légumes, t'as de la viande, t'as ouais, du chaud, ça mijote.
Puis c'est très. En fait, c'est même. C'est très, je pense, presque. Basique comme repas parce que ça a été une façon de cuire la viande depuis toujours, je pense, et dans toutes les cultures on retrouve ce principe de viande bouillie pendant des heures parce que soit c'est de la viande pas chère qui a du coup besoin de cuire longtemps pour être plus tendre, soit c'est pour s'assurer qu'elle soit comestible, qu'il n'y ait pas de parasites ou de microbes de la cuire très longtemps. Donc je pense que c'est assez naturel comme façon de préparer de la viande.
Ouais, puis historiquement, en plus, tu peux faire un peu ce que tu veux dedans, tu peux mettre un peu ouais, la viande que tu veux.
Les légumes que tu veux. Ouais.
J'ai l'impression aussi que tu peux, quand tu as deux choses à faire, des travails manuels ou un quoi, n'importe quoi,
tu peux le lancer, tu peux
faire autre chose.
Ouais.
C'est vrai que c'est pour ça que c'est, je pense, un plat qui est presque une base de cuisine.
Ouais.
Et toi, tu dirais que c'est un bon truc aussi pour apprendre le reste de la cuisine, commencer par apprendre à faire des pot-au-feu ? Enfin, en tout cas, une partie de la cuisine, la partie, on va dire, mijoter.
Ouais, ouais, ouais. Bah, après, oui, c'est vrai que c'est un peu la même base que après une blanquette ou une gardiane ou un bourguignon. C'est la même, c'est un peu la même technique de cuisson.
C'est quoi qui va faire la différence ?
Bah, c'est l'ajout de bouillon ou la viande qu'on utilise. Parce que pour la blanquette, ça va être du sauté de veau.
Et de la crème aussi.
Et de la crème. Et pour le
bouillon,
ça va être du vin.
Du vin,
enfin,
ouais.
Voilà.
Est-ce que tu sais pourquoi cette question que les gens se posent souvent, pourquoi c'est meilleur le lendemain ?
Je pense parce qu'en fait, il y a déjà dans la première cuisson du pot-au-feu, il y a une réaction, il y a un phénomène chimique qui s'opère, c'est que la viande. Au début de la cuisson, elle s'imprègne du bouillon. Après, au bout d'un moment, quand elle est complètement saturée du bouillon, des légumes et tout ça, elle rejette. Et en fait, il y a un échange comme ça osmotique qui s'opère et qui fait que les saveurs de la viande et des légumes font que traverser la viande et les légumes et après se mélangent dans le bouillon. Et du coup, le lendemain, en fait, même toute la nuit, quand ça repose, ça continue à se mélanger, quoi. Et donc, ça fait que...
Oui,
ça,
il y a de plus en plus de saveurs.
Ouais.
Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe pendant que ça cuit continue, même quand ça cuit
voilà,
pas. C'est juste
ouais,
accéléré pendant la cuisson.
Ouais, exactement.
T'en as des trucs à dire, il y a quoi sur le bouillon, sur le pot-au-feu ?
Ouais, faut, même si on n'aime pas le manger, quand même mettre un os à moelle ou deux. Même si on n'aime pas, mais ça rajoute... Enfin, on n'est pas obligé de manger l'intérieur de l'os à moelle. Donc si vous voulez pas le manger, vous pouvez même le mettre bien avant la fin de la cuisson. Si vous voulez le manger, il faut le mettre pas trop tôt parce que sinon il va se désagréger, il va couler dans le bouillon, mais ça rajoute quand même un petit gras et un petit goût qui est pas dégoûtant quoi.
Merci Yako, je vous ai pas dit exactement où était le bar des amis. C'est à Villars, un petit village à côté d'Apt dans le Luberon.
Si vous avez l'occasion d'y passer, faites-le. C'est un petit coin de paradis où on mange très bien. Et merci encore à Georges Carantino, notre premier invité. Une recommandation pour finir. Laura, Laura, c'est notre productrice. Laura, t'aimes bien les pâtes ?
J'adore les pâtes.
T'aimes bien YouTube ?
Comment tu sais ? Oui, j'adore YouTube aussi.
Tu connais Pasta Granise ?
Non.
C'est une chaîne avec des grand-mères italiennes qui donnent leurs secrets pour faire des pâtes. Alors déjà, bonne idée pour archiver tout ça. Et puis c'est aussi intéressant que réconfortant à regarder. Pasta Granise, tu iras voir Laura, tu me diras ce que t'en penses.
Tout à fait, merci.
Tu feras des pâtes chez toi ?
Des pâtes chez moi, oui, ça m'arrive assez régulièrement.
Mensonge. Et voilà, c'est fini pour cet épisode de Bouffon. Toutes les infos et les adresses évoquées durant l'épisode sont à retrouver sur le site de Nouvelles Écoutes, nouvellesecoutes.fr/bouffon, et aussi sur notre carte Mapster. On est aussi sur Twitter, BouffonME, et pareil sur Instagram. Bouffon, c'est une émission de Nouvelles Écoutes, animée par moi, Guillaume Madison, enregistrée par Marine Rowe, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée et mixée par Thibaut Delage au studio L'Arrière Boutique, production et coordination, vous l'avez entendu, Laura Cussard. Parlez-en autour de vous, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire, tout ça, à la semaine prochaine.